BFM Bourse, Tech Stocks. Guillaume Sommerer.
Tout un stock d'actions pour investir dans la tech. Pendant 27 minutes, on vous apportera des idées de pépites et on va tenter de faire de vous des insiders. Nos goats de la tech cette semaine, ils sont là. Alice Labou pour Alice Labou Conseil, dont elle est la fondatrice. Bonjour Alice.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver.
Merci.
Valentin François aussi nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Valentin, gérant action thématique pour Montpensier Arbevel. Ravi aussi de vous retrouver chaque vendredi. Donc à cette heure-ci, BFM Bourse prend de l'avance sur la tech boursière grâce à votre expertise à l'un et à l'autre. Dans un instant, vous nous présenterez vos pépites de la tech encore méconnues, mais d'abord dans l'actu. Et dans l'actu, c'est pour ceux qui ont raté la semaine. Qu'est-ce qui vous a l'un et l'autre le plus bluffé dans cette semaine tech ? Alice.
Alors bon, je peux pas démarrer sans quand même parler des résultats assez spectaculaires d'Oracle. Hein. Vous en avez sûrement parlé sur l'antenne, hein, mais c'est vrai que c'est impressionnant. En fait, les activités d'infrastructure cloud ont progressé de 121% et son carnet de commandes, on en parlait justement avec Antoine, 664 milliards de dollars. Donc c'est absolument colossal et surtout, ça montre qu'il n'y a pas de ralentissement en fait hein, dans la demande de capacité de calcul. Mais en fait, ce dont j'avais envie de vous parler en termes d'actualité, c'est aussi de quelque chose dont on entend peu parler. Est-ce que vous connaissez le dichlorosilane ultra pur?
Pas encore.
Alors, figurez-vous que c'est un maillon de la chaîne très important dans l'intelligence artificielle et notamment dans la fabrication de semi-conducteurs. C'est un gaz qui va aller en couches très très fines sur les plaques de silicium et c'est fondamental. C'est microscopique, mais c'est très important pour la fabrication. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que les Chinois se sont un petit peu énervés la semaine dernière sur les Japonais. Parce que figurez-vous que les Japonais sont des gros producteurs de ce gaz et qu'ils trouvent qu'en fait les Japonais font du dumping, c'est-à-dire envoient et vendent pour pas très cher pour gagner toutes les parts de marché un peu partout dans le monde et beaucoup en Chine. Du coup, les Chinois ont dit « Ok, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'ensemble des importateurs chinois, donc ceux qui vont importer ces produits du Japon, on va leur demander en collatéral de mettre énormément de capital de côté pour garantir que les prix qui vont être pratiqués sont à la hauteur de la réalité du marché. » Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça montre qu'en fait, la guerre de l'intelligence artificielle, c'est aussi une guerre sur toute la chaîne de production. Et les Chinois ne s'y trompent pas et je trouvais que ça valait le coup qu'on en parle aujourd'hui.
Oui, d'autant que c'est un peu l'hôpital qui... Enfin, vis-à-vis, c'est intéressant quand même. Ils accusent les Japonais de faire du dumping, c'est peut-être vrai. Hein, et la méthode chinoise, la réponse chinoise à ces risques, elle est très intéressante. Est-ce qu'on devrait nous-mêmes s'inspirer des Chinois contre le dumping japonais? Les Chinois, nous, pour contre le dumping chinois, pourquoi pas?
Ben voilà, on a déjà les Américains hein, qui, eux, ont évidemment une politique de souveraineté quand même majeure, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Mmh. Évidemment, les Européens sont beaucoup moins enclins à avoir ces mesures de souveraineté, mais moi je pense que oui, il faut s'en inspirer, puisque dans une guerre, toutes les armes sont bonnes.
Demandez aux entreprises, donc, de, en face, mettre le capital, Antoine.
Non, et puis surtout, là, ça concerne un matériel critique, du matériel critique. Vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de cette histoire, alors c'était un Japonais qui avait inventé un matériel critique pour la fabrication de semi-conducteurs à partir du glutamate qu'il mettait dans les, pour donner du goût aux nouilles. Vous vous souvenez, qui est devenu une sorte de monopole mondial. C'est sur ces matériaux-là très très précis que ça va se jouer et souvent ça prend des circuits historiques un peu improbables mais qu'il faut pouvoir conserver et au bon prix, ça c'est sûr.
Oui, oui. Bon, en tout cas, Oracle hein, qui fait la tendance aujourd'hui sur le marché, même si la hausse est en train de fondre comme neige au soleil, le titre était en forte hausse, il gagne plus que 0,8%. Vous restez positif sur Oracle même si la hausse fond?
Oui, alors je reste positive sur Oracle parce que leur position quand même très dominante, compte tenu de ce carnet de commandes, quand même donne l'impression, le sentiment. Et on en parlera d'ailleurs dans la partie insider, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite, mais vous comprendrez pourquoi je considère que ça va continuer. Donc Oracle est plutôt bien positionné. La question c'est de financer leur croissance parce qu'en fait c'est quand même un enjeu majeur. Mais oui, je reste favorable.
Valentin, on vous retrouve. Qu'est-ce qui pour vous a marqué cette semaine tech en dehors de la publication d'Oracle ?
Bonjour Guillaume, bonjour Alice. En fait, il y a tellement de choses qui se passent cette semaine, donc ça a été difficile de faire un choix. On va parler d'Astra, on va parler de Muse, et on parlera aussi, je pense, de ce qui a été publié par un ancien d'OpenAI et d'Anthropic sur le risque menaçant de l'intelligence artificielle sur l'humanité. Pour commencer, Astra, moi j'ai trouvé ça extrêmement bluffant, tout ce qu'on pouvait faire avec. Sans parler du problème mathématique résolu. Alors, a priori, pas avec Astra. Ouais.
On rappelle juste, on rappelle juste, Valentin, oui. Parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est Astra. Hein. Effectivement, Astra, c'est la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI. Voilà.
Qui est sortie ce week-end.
Voilà.
Et qui, depuis ce week-end, tout le monde s'éclate sur Astra. En tout cas, tous ceux qui aiment parler à ChatGPT et travailler avec lui.
Exactement. Alors, pourquoi ça vous a bluffé,
Valentin? C'est assez fantastique parce que c'est entraîné sur 100 000... puces de NVIDIA de l'avant-dernière génération, donc la génération Blackwell, 100 000 puces, hein, c'est ce qu'on appelle un cluster. Et ce qu'il y a de dingue avec ça, donc ça c'est déjà, on va dire, des capacités de calcul déjà monstrueuses, énormes. Mais la prochaine génération de NVIDIA qui est déjà commercialisée, qui s'appelle Vera Rubin, a des capacités de calcul qui n'ont rien à voir avec ce que fait Blackwell, hein, c'est des capacités de calcul qui sont décuplées. Alors imaginez qu'est-ce qu'on arrivera à faire quand on arrivera à avoir un cluster de 100 000 puces Vera Rubin pour entraîner l'intelligence artificielle. Je pense que ça dépasse ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Dans le même temps, on a eu Meta qui a sorti son premier agent IA qui s'appelle Muse. Et cet agent IA, il est capable de faire absolument tout sur Internet pour votre compte. Donc, il peut faire du shopping. Il sera d'ailleurs directement compatible avec tous les sites e-commerce fabriqués avec Shopify. Et pour l'instant, c'est gratuit. Alors, comment va se rémunérer Meta? Ils vont prendre des commissions sur les transactions. Alors, pas tout de suite, mais dès que votre IA fera du shopping pour vous, eh bien, il y aura quelques centimes qui partiront dans les caisses de Meta. Et ça, on attendait enfin la monétisation de l'intelligence artificielle chez Meta. Ils le montrent comme ça et on attend une deuxième monétisation chez Meta qui est l'infrastructure, c'est-à-dire qu'ils ont commandé énormément de matériel chez NVIDIA. Ils ont de la puissance de calcul qui est disponible et ils peuvent la louer à d'autres personnes, à d'autres sociétés qui souhaitent entraîner leur modèle. Et ça, c'est par exemple SpaceX qui le fait. Donc, on pourrait voir encore des gigadeals se faire dans ce monde-là.
Et tout ça est, hyper encourageant, vous avez raison. Et c'est vrai, Meta avance avec cet agent d'IA qui a été dévoilé, qui a été salué en bourse. Hein. Meta vient de vivre une belle semaine boursière. Vous le disiez, OpenAI, il a fait un pas de géant avec son nouveau modèle d'IA, Astra, qui met peut-être Anthropique dans les choux. En tout cas, c'est le nouveau truc à la mode. Et OpenAI est en train peut-être de reprendre une forme de leadership. Tout ça, c'est super. Mais tout ça peut aussi être inquiétant. On a eu aussi beaucoup d'alertes sur cette semaine. Hein. C'est ce qui nous a tous frappés et marqués sur tout simplement l'avenir de l'humanité, Valentin. Et ça aussi, ça vous a marqué, l'avenir de l'humanité face à ces IA qui sont en train d'accélérer à vitesse grand V.
Ah, c'est toujours incroyable, hein, la technologie. Puis il y a toujours des phases inquiétantes de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle. Alors, on pense que c'est loin, hein, loin devant nous et peut-être ça n'arrivera jamais. Toujours est-il que certaines personnes, des chercheurs dans l'intelligence artificielle, démissionnent. Et là, c'est le cas d'un certain Jacob Coxon, qui a démissionné à la fois d'Anthropique. Donc là, c'était son dernier boulot. Et juste avant, il était chez OpenAI. Il a démissionné pour des raisons éthiques. Il estime que la civilisation chez OpenAI n'a jamais été prise en considération. Chez Anthropique, ça a été pris en compte. Mais finalement, pas tant que ça, puisqu'il faut faire la guerre, la course à l'armement vis-à-vis d'OpenAI. Et donc, il démissionne parce que il y a un risque que l'IA vienne prendre le dessus sur l'humanité d'ici un an, deux ans. Alors, certains estiment que c'est d'ici 2030. Et ça fait vraiment, vraiment peur. Alors, est-ce que toutes ces annonces entre Astra de OpenAI, puis un chercheur qui démissionne, tout ça se fait juste avant l'introduction en bourse d'Anthropique? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anti-marketing à cette introduction en bourse? Le management va être bientôt en roadshow pour présenter Anthropique et ses chiffres avant l'introduction. Ben ça c'est peut-être aussi un sujet.
L'alerte de ce chercheur pour l'humanité, hein, en disant que l'IA peut devenir désormais dangereuse parce que les dirigeants d'Anthropique comme d'OpenAI ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux civilisationnels. Ce message, cette alerte, elle a dépassé sur les réseaux sociaux les 150 millions de vues, Alice. On a Anthropique qui dit aujourd'hui avoir stoppé des opérations par l'IA, hein, des opérations par l'IA de surveillance de dissidents des minorités en Chine, en Iran et dans d'autres pays. Et au Yémen, l'IA d'Anthropique a été utilisée, figurez-vous, donc par les outils, a été utilisée pour développer des armes téléguidées. Voilà. Donc cette semaine a aussi été marquée par la conscience d'un danger croissant autour de l'intelligence artificielle.
Mais c'est à peu près normal qu'on prenne conscience de ce sujet-là. Alors oui, il a fallu un lanceur d'alerte pour que ce soit le cas, mais de toute façon, c'est presque philosophique comme sujet. C'est-à-dire que de tout temps, l'être humain a cherché soit à se prendre pour Dieu, soit à être alchimiste. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu le cas aujourd'hui. Simplement, on a une grande capacité, nous, collectivement, dans les moments qu'on sent vraiment périlleux, à prendre des décisions et donc à agir dans l'intérêt commun. Donc même si là, on est comme ça dans un rush, on va dire, de nouveautés, de stupéfaction. C'est-à-dire qu'on est collectivement, là on en parlait, mais on est collectivement stupéfait de voir ce que l'intelligence artificielle est capable de produire et surtout le raccourcissement des cycles, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il y a des nouveautés. Donc là, on est plutôt en mode stupéfaction, mais bien entendu que je crois quand même que l'humanité sera régulée. En tout cas, je l'espère.
Oui, oui, c'est l'IA qui a résolu un problème de maths aussi qu'on n'arrivait plus à résoudre depuis des décennies.
Et cette des problèmes de santé, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre quand même que l'accélération que nous, on vit au quotidien en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'utilisateur de l'intelligence artificielle, en fait, le monde de la santé est incroyablement en train d'être bouleversé. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car je pense qu'on aura des traitements assez surprenants qui vont arriver dans les années à venir.
Alors, on verra. Anthropique, on attend toujours l'introduction en bourse, sans doute vers mi-octobre. 2000 milliards de dollars, hein, ce serait la plus grosse de l'histoire. Est-ce qu'on se dit, alors voilà, est-ce qu'on se dit avec une introduction en bourse et une cotation que ben, ça va un peu freiner les acteurs de l'IA dans leur course à l'armement, histoire de prendre en compte un peu quand même les enjeux éthiques, ou au contraire, ils iront encore plus vite dans cette course à l'armement parce qu'en bourse, il faut être le premier. Qu'est-ce qu'on se dit ? Quel impact aura une cotation en bourse sur cette course aux armements ?
C'est une très bonne question. Alors normalement, le fait qu'il y ait des actionnaires, on va dire, des fonds d'investissement, des fonds de pension, des actionnaires privés qui pourront quand même voter en Assemblée Générale, ça donne aussi un peu la voix du peuple. Donc c'est peut-être pas plus mal que juste des capitaux privés détenus par des gens peut-être qui sont moins visibles ou peut-être moins concernés par les sujets de l'humanité. Donc moi, je pense que la cotation, c'est une bonne chose. Et puis je pense que ça normalise aussi le secteur qui était quand même principalement accessible en private equity, et ça donne l'opportunité aussi aux gens, aux petits épargnants, d'accéder en fait à ces nouvelles technologies de manière plus simple dans leur compte-titre et pourquoi pas dans leur contrat d'assurance-vie.
Est-ce qu'on peut se dire, tiens Valentin, est-ce qu'on peut se dire qu'il serait de l'intérêt général que tout le monde devienne actionnaire de ces sociétés pour justement que la voix du peuple se fasse entendre et que les enjeux éthiques soient pris en compte par les dirigeants des sociétés d'intelligence artificielle une fois qu'elles seront cotées en bourse ?
Alors, j'ai envie de répondre oui, mais alors il y a certaines conditions pour que ça puisse se réaliser. C'est-à-dire, est-ce que sur les actions achetées par les particuliers, celles qui seront disponibles en fait, est-ce qu'il y aura un droit de vote associé à cette action ? Eh ben, c'est pas forcément sûr. Et on verra un peu comment ils vont structurer toute cette introduction en bourse. Ça, c'est un premier point. Mais effectivement, dans un monde idéal, est-ce que tout le monde pourrait être actionnaire de l'entreprise et puis avoir voix au chapitre comme dans une démocratie? Ça serait formidable vu l'impact que l'intelligence artificielle va probablement avoir sur notre économie et sur nos emplois sur les prochaines années. Maintenant, est-ce que ça sera super intéressant de rentrer sur une capitalisation de 2000 milliards de dollars? Je ne sais pas. On verra ça aussi, encore une fois, à quelles conditions. Et puis surtout, je pense que ça fait surtout une belle sortie pour les fonds de private equity, de capital croissance, et pour tous ceux qui ont été investis avant introduction en bourse.
Oui, alors on disait un peu la même chose quand même avec l'introduction de Meta, c'est-à-dire ça me rappelle un peu cette époque où en fait tout le monde disait, bon c'était autre temps, autre mœurs, mais quand même on disait que c'était survalorisé, que c'était aussi pour que sortent les actionnaires en private equity, ce qui est le cas, hein. Mais finalement Meta, après avoir en bourse quand ça a été introduit, ça a baissé, mais finalement ils se sont renouvelés et ça a plutôt créé de la valeur pour les épargnants.
Vous nous direz l'un et l'autre quoi suivre la semaine prochaine aussi dans la tech.